presque sur Europe 1. Au sommaire, d'abord interdite puis permise, la marche contre le racisme et l'islamophobie ce dimanche à Paris était jugée sous haute tension, finalement pas de heurts et un défilé plutôt dans le calme. 3000 personnes sur place, nous sommes là dès le début de ce journal. Nous irons à Nice puisque demain s'ouvre en appel le procès de l'attentat terroriste le plus meurtrier de ces dernières années en France, celui du 14 juillet 2016 à Nice, ce camion fou tuant 86 personnes dont de nombreux enfants. Vous entendrez l'avocat des partie civile. Nous irons en Israël où, à la veille de Pessah, et malgré l'absence de bombardements massifs, la guerre continue. Tzahal analyse, dissèque minutieusement les images de l'attaque iranienne et réplique le détail avec notre envoyé spécial dans quelques instants. Dans ce journal également, le sport et l'arrivée en cyclisme du Liège-Bastogne-Liège, Pogacar superstar, Max Verstappen sans surprise, vainqueur du Grand Prix de Chine, et le PSG qui ce soir reçoit l'OL, vieil adversaire des pelouses que le Paris Saint-Germain ne va pas tarder à revoir en finale de la Coupe de France. Ça sera fin mai. La météo, la tendance. Bonsoir Anthony Kaczmarek.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Attention au risque de gel demain autour de 0 degré dans beaucoup de régions et à peine 7 à 15 degrés dans l'après-midi. Et encore des averses sur la moitié est, au nord de la Loire. Et ce sera ensoleillé en revanche entre le sud-ouest et le Languedoc-Roussillon.
18h15, l'interview politique. Bruno Bonnel est le secrétaire général pour l'investissement et en charge de France 2030 avec la descente aux enfers d'Atos, la vente probable de Biogarant, la France qui risque d'écoper d'une tôle par les agences de notation la semaine prochaine. Quelle perspective pour relancer l'investissement dans notre pays? 18h30, le club politique d'Europe 1 Soir, le constitutionnaliste Benjamin Morel et l'expert à la Fondation Jean Jaurès Dorian Dreuil. Europe 1. C'est comme je vous le disais en titre, une manifestation qui avait été soigneusement examinée par les services de renseignement, les services de l'intérieur. D'abord interdite par risque de débordement, puis finalement autorisée par la justice, le grand rassemblement contre le racisme et l'islamophobie avec dans le cortège les ténors de LFI en commençant par Jean-Luc Mélenchon. Atterrissage, place de la République, où vous vous trouvez Guillaume Dominguez et finalement plutôt dans le calme.
Oui, ici la fin du cortège a rejoint la place de la République il y a maintenant une petite demi-heure et une bonne partie des manifestants se sont déjà dispersés. La mobilisation s'est déroulée dans le calme tout au long du parcours malgré plusieurs slogans scandés par la foule à l'encontre des forces de l'ordre et d'Israël.
Urgence ! Urgence ! La police assassine !
La foule scandait, je cite, « La police assassine et Israël assassin », un cortège marqué par la convergence de plusieurs luttes et particulièrement la très forte présence des mouvements pro-palestiniens, marqué également par le soutien de la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panot et Louis Boyard ont fait une très courte apparition dans le défilé. Place de la République à présent, une grande partie des manifestants sont partis. L'attention des forces de l'ordre va se porter à présent sur la tenue du concert gratuit du rappeur Medine, un concert prévu ce soir pour clôturer cette journée de mobilisation.
Et on suit ça attentivement avec vous, Guillaume Dominguez, en direct de la place de la République à Paris. Merci à vous. C'est demain que s'ouvre le procès en appel de l'attentat terroriste islamiste de Nice. Le dernier attentat le plus meurtrier en France, 86 personnes, dont de nombreux enfants, ont perdu la vie brutalement sous les roues de ce camion bélier lancé le soir des festivités du 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais. Deux accusés condamnés en première instance à 18 ans de réclusion criminelle, Mohamed Graieb et Chokri Chafroud, comparaissent devant la cour d'assises spéciale. Ces deux hommes de proches du terroriste qui conduisait le camion abattu par la police sont poursuivis pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Ils ne sont pas considérés comme des complices, mais la justice estime qu'ils ont joué un rôle dans la dérive islamiste et meurtrière de l'auteur de l'attentat. Écoutez Maître Philippe Soucy, il défend plusieurs dizaines de parties civiles.
Tout a été dans ce dossier mensonges et dissimulations sur des détails comme sur des éléments importants du début jusqu'à la fin. J'ai toujours l'espoir qu'un procès par l'oralité des débats puisse apporter de nouveaux éléments. Peut-être que celui-là en apportera d'autres, d'autant que nous n'aurons que deux accusés dans le box et non pas le nombre d'accusés importants qui étaient dans le premier box et qui avaient amené la durée des débats à être extrêmement longue. Là, nous aurons les deux protagonistes essentiels avec la possibilité de se polariser sur leurs responsabilités. J'ai beaucoup d'espoir par rapport à cela. Pour mes clients, c'est une chose difficile de revivre un deuxième procès. Un deuxième procès est un procès nouveau. Ce que je peux vous dire parmi les dizaines de personnes que je représente, c'est que ce nouveau procès est une nouvelle épreuve.
Philippe Soucy, avocat qui défend plusieurs dizaines de parties civiles interrogées par Frédéric Michel. Les Juifs du monde entier fêtent demain Pessah, la Pâque juive. En Israël, la tension ne redescend pas, même s'il faut continuer de vivre. Et c'est ce que font d'ailleurs la plupart des Israéliens. Et si Tzahal ne mène pas pour l'heure un conflit à grande échelle, c'est une guerre par petite frappe, par petite touche qui est entreprise. Wilfried de Villers, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Jérusalem. Wilfried, l'armée israélienne qui désormais a plus d'informations sur l'attaque de l'Iran.
Oui, on apprend qu'il s'agissait de frappes doubles, des tirs de drones, mais aussi de missiles S-300. Des missiles assurent officieusement des responsables iraniens et israéliens au New York Times qui ont visé et endommagé les systèmes de défense antiaérien de Natanz, ville hautement stratégique puisqu'elle abrite parmi les plus importants centres de recherche du programme nucléaire iranien. Des images satellites diffusées par des médias iraniens d'opposition montrent également les dégâts causés par les explosions. Une façon pour Israël de montrer qu'il est capable de contourner et de neutraliser les systèmes de défense de Téhéran. Il s'agissait aussi pour les Israéliens de restaurer leurs forces de dissuasion. Plusieurs analystes militaires cités dans les médias ici à Tel Aviv affirment que ces frappes et celles en Irak hier ont permis d'ouvrir un couloir de tir jusqu'en Iran en cas de riposte de Téhéran. Les tensions semblent désormais s'apaiser malgré déclarations belliqueuses et mises en garde d'une part et d'autre.
Ouais, et sur le terrain, pourtant, la tension est montée d'un cran.
Oui, la bande de Gaza, particulièrement le sud, a été lourdement bombardée par l'armée israélienne aujourd'hui. Et puis, on peut aussi parler de ces différentes tentatives d'attaque contre des Israéliens en Cisjordanie. Une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux montre un réserviste de l'armée tenter d'enlever un drapeau palestinien avant de sauter sur une mine. Le drapeau était en fait piégé.
Merci Wilfried de Villers en direct de Jérusalem. Pour Europe 1, vous restez avec nous à 18h06, une pause. Et dans un instant sur Europe 1, une grande page sport avec les meilleurs devant Pogacar, Verstappen. Pour le PSG, il faudra voir ce soir.
Europe 1 matin, Dimitri Pavlenko.
Bon réveil avec Europe 1 au programme ce matin.
Bienvenue et bonjour Bruno Le Maire.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Merci de votre présence.
Elle aurait dû fêter ses 14 ans. La petite Shannon, 13 ans, sera enterrée demain.
Chemseddine, battue à mort pour avoir osé échanger des messages connotés sexuellement avec la sœur de deux des assassins présumés.
L'incapacité de l'État royal à tenir les comptes publics a entraîné en 1789 le plus grand cataclysme de l'histoire de France.
Souhaitez-vous un référendum sur la politique migratoire? Vous dites oui à 69%.
Tout le monde est content. Les Iraniens ont défié le petit Satan. Israël a démontré l'efficacité de son dôme de fer.
On en apprend des choses sur Europe 1. À demain matin, 7h-9h sur Europe 1.
Renault. L'autre jour, un chef d'atelier Renault me demande « Monsieur José, vous pourriez nous aider à recruter pour le service après-vente ?» Et le voilà qui me parle de ses métiers de plus en plus technologiques, avec des formations régulières. Bref, le gars passionné. Moi, je dis, il ferait mieux de parler à ma place.
Les ateliers Renault Car Service recrutent des mécaniciens, électromécaniciens et carrossiers, débutants ou confirmés. Postulez sur recrutement-réseau.renault.fr. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Source, l'Automobile Magazine 2023. Europe 1 Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Et le retour du journal à 18h08 sur Europe 1, le sport et d'abord le cyclisme et la doyenne des classiques cet après-midi, Liège-Bastogne-Liège, une course mythique qui existe depuis 1892 et c'est un double vainqueur du Tour de France qui s'est imposé dans les Ardennes belges, Martin Lange.
Et oui, Tadej Pogacar, le Slovène déjà vainqueur à Liège en 2021, on attendait beaucoup de son mano à mano face au champion du monde Mathieu Van Der Poel. Eh bien, il n'a jamais eu lieu, piégé par une chute en début de journée. Van Der Poel n'a jamais pesé sur la course. À l'inverse de Pogacar, protégé par ses coéquipiers et qui s'est envolé dans la bien nommée côte de la Redoute à 30 km de l'arrivée. Le Slovène a même pu savourer son triomphe dans les derniers hectomètres sur les quais de la Meuse. Derrière lui, c'est un Français qui prend une très belle deuxième place, Romain Bardet, un habitué des places d'honneur, 50 fois deuxième dans sa carrière, vous vous rendez compte. L'Auvergnat signe son meilleur résultat ici à 33 ans et peut-être pour sa dernière saison professionnelle. Une place d'honneur qu'il n'osait même pas imaginer ce matin.
Super content, je m'étais presque fait un peu une raison sur Liège et comme quoi, il faut toujours y croire et je savais que le temps allait être difficile, que ça allait être une course usante et tout. J'ai pris vraiment sans pression avec bien sûr aussi de très bonnes jambes.
À Romain Bardet, ému aux larmes après avoir franchi la ligne, Mathieu Van Der Poel lui restera le grand bonhomme de cette campagne de classique. Il a d'ailleurs remporté le sprint débattu pour un podium de rêve. Pogacar, Bardet, Van Der Poel, tout ce beau monde va maintenant prendre un peu de repos avant de se retrouver début mai sur le Tour d'Italie où Pogacar fera de nouveau fera une nouvelle fois figure d'épouvantail. Pardon, Pierre.
Merci, sauf vous. Merci, Martin Lange. La Formule 1 à présent et le week-end parfait pour Max Verstappen à Shanghai. Le Néerlandais, vainqueur de la course sprint hier, a emporté ce matin le Grand Prix de Chine. Le pilote Red Bull n'a absolument pas été perturbé par les accrochages, Christopher Pilock.
Oui, Pierre, nouvelle promenade pour Max Verstappen, malgré une course marquée par deux voitures de sécurité. Le triple champion du monde continue de dominer tous les Grands Prix qu'il termine. 58e victoire pour le Néerlandais et la première sur ce tracé. Tout l'intérêt de ce Grand Prix était donc de savoir l'identité des deux autres pilotes présents sur le podium. C'est Lando Norris, un parti quatrième avec sa McLaren qui a joué sa carte à fond et qui prend la deuxième place devant Sergio Perez pour la première fois de la saison. Donc aucune Ferrari sur le podium. Charles Leclerc et Carlos Sainz terminent respectivement 4 et 5e. Derrière, on retrouve George Russell, Fernando Alonso et Oscar Piastri. Lewis Hamilton, parti 18e, accroche la 9e place. Nico Hülkenberg complète le top 10. Aux portes des points, Alpine progresse. Après un début d'année passé en fond de grille, l'écurie française retrouve quelques couleurs. Esteban Ocon et Pierre Gasly terminent 11 et 13e. Esteban Ocon au micro de Canal+, frustré de terminer si proche du top 10.
C'est dur d'échouer à 2 secondes du top 10 parce que ça aurait été vraiment une belle fin d'avoir ce point. On n'a pas réussi à l'avoir malheureusement, mais en tout cas c'est notre meilleur résultat de l'année et il faut qu'on continue à progresser dans ce sens.
Et parmi les derniers arrivés du jour, le pilote chinois Guan Yu Zhou, 14e, a savouré les clameurs de son public. Le natif de Shanghai est le premier chinois à concourir en Formule 1 et donc à piloter sur son circuit local.
Merci mon cher Christopher. Philoc en tennis, Casper Ruud remporte son premier tournoi ATP 500 à Barcelone. Il prend sa revanche sur Stefanos Tsitsipas. Finale de Monte-Carlo qu'il avait perdu contre le Grec. Le foot, 30e journée de Ligue 1 avec tout à l'heure Lille qui s'est imposée sur Strasbourg 1-0. Montpellier est allé battre Reims 2-1, de même que Metz qui a battu Le Havre 1-0. En ce moment, Brest-Monaco tout à l'heure à 19h, Toulouse contre Marseille. Et puis à 21h, le PSG qui accueille Lyon. Les Parisiens qui viennent de battre Barcelone se sont qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions. D'ailleurs, les Lyonnais, ils vont les retrouver dans quelques semaines, Cyril de la Morinerie.
Oui, c'est un avant-goût de la finale de la Coupe de France prévue le 25 mai prochain à Lille. Deux formations en forme. Lyon poursuit sa fantastique remontée au classement et se rapproche du top 5. Les Lyonnais ont battu Brest dimanche dernier lors d'un match fou. Ils pourront compter sur leur prolifique attaquant Alexandre Lacazette, légèrement blessé et qui a repris l'entraînement. Mais la tâche s'annonce très complexe pour les Rodaniens au Parc des Princes. Les stars du PSG vont vouloir surfer sur leur qualification en demi-finale de la Ligue des Champions, analyse l'entraîneur lyonnais Pierre Sage.
Pour moi, ça va avoir un effet positif pour eux. Et ils ont prouvé cette semaine qu'en plus, c'est un adversaire de très haut niveau sur la scène européenne. Donc le challenge va être élevé, mais notre ambition l'est aussi.
Paris, qui domine outrageusement la Ligue 1, espère remporter rapidement le championnat pour se concentrer sur la Ligue des Champions et la Coupe de France. En attendant, le PSG rendra ce soir hommage à son valeureux capitaine. Le défenseur Marquinhos est devenu le joueur le plus capé du club de la capitale et recevra un maillot spécial pour l'occasion.
Merci Cyril de la Morinerie. Le rugby avec cet exploit des Françaises en tournoi destination dans la 4e journée. La France qui bat le Pays de Galles 40-0. Comme ça, c'est fait. La météo, encore un petit peu plus froid demain, Anthony.
Oui, avec des températures comprises au réveil, souvent entre moins 1 et 3 degrés en ville, ce qui veut dire qu'en campagne, ça gèlera quasiment partout en dehors des littoraux, jusqu'à moins 2 ou peut-être moins 3 degrés autour des régions centrales, ce qui va devenir problématique pour la végétation et pour les cultures. Et puis dans l'après-midi, à peine 7 à 15 degrés, allez, 17 péniblement pour Toulon et Ajaccio, mais seulement 14 à Nice, à Marseille, à Toulouse, 12 degrés à Paris et Lille, 11 à Lyon et Strasbourg, 10 à Grenoble, et Clermont-Ferrand, et 8 pour Saint-Étienne, avec toujours de l'instabilité dans l'Est, c'est-à-dire des averses fréquentes entre l'Alsace, la Lorraine, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Auvergne-Rhône-Alpes, en redescendant jusqu'à la Côte d'Azur et à la Corse. Des averses qui seront neigeuses à partir de 400 mètres sur les reliefs le matin, 700 mètres l'après-midi et 1200 mètres pour la montagne corse. Mais ailleurs, la matinée sera plutôt belle, ensoleillée, avec toutefois déjà un risque d'averses près des côtes de la Manche. Et ces averses vont à nouveau gagner la moitié nord, en tout cas le nord de la Loire l'après-midi, avec de plus en plus de nuages. Mais ce sera bien ensoleillé sur un bon quart sud-ouest depuis les Pyrénées jusqu'à la Loire et quasiment tout bleu pour la côte aquitaine. Et puis attention, toujours du vent fort près de la Méditerranée, le Mistral et la Tramontane jusqu'à 80 km/h.
Ouais, et ce froid, ça va durer combien de temps?
Ça va durer encore 4 jours jusqu'à jeudi inclus, avec toujours des averses assez aléatoires sur presque tout le pays, sauf autour du Languedoc-Roussillon. Et puis à partir de vendredi, on va changer de flux. C'est le vent de sud-ouest qui va souffler qui va donc nous rapporter de la douceur, sans doute, hein, pour le week-end. Mais avec une dépression qui va arriver par la côte atlantique, et comme son nom l'indique, ça n'augure rien de bon. La pluie pourrait faire son retour de manière conséquente.
Merci Anthony. Kaczmarek dans un instant sur Europe 1. Mais quelle mouche a donc piqué Emmanuel Macron? Dans un tweet d'une allégresse pas comme les autres, il annonce la mobilisation de tous pour réindustrialiser le pays. Ah oui, dans cette situation, mais avec quel argent? Bruno Bonnel, le monsieur en charge de tout ça, nous explique tout dans un instant. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1 Soir Weekend. Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Ah, le patron, il est à 1,99€.
Le melon?
Ah oui, je m'en lèche déjà les doigts, patron. Dès demain, chez Lidl, le melon charentais est à 1,99€ la pièce.
1,99€ le melon chez Lidl? Ils sont encore et toujours moins chers que nous.
Et bien meilleur, patron, hein, parce que c'est du melon charentais.
Ils ont vraiment pris de melon.
Oh, melon est mal, patron.
Lidl, trop fort sur les prix, et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. Catégorie 1, origine Maroc. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Quand vous avez un brique glace, ça vous paraît compliqué à gérer? Avec Carglass, c'est simple. Allez direct sur carglass.fr. En quelques clics, vous lavez votre rendez-vous. Comme on est agréé par la plupart des assureurs, on vous accompagne dans les démarches avec votre assurance. Et comme la majorité de nos clients, il n'y a pas de franchise à payer. Oui, oui, zéro franchise. En plus, jusqu'au 10 mai, pour toute intervention par brise, Carglass vous offre des balais d'essuie-glace Bosch. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui sur carglass.fr.
Carglass répare, Carglass remplace.
Conditions sur carglass.fr.
Europe 1 Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
18h16, l'interview politique sur Europe 1 avec quelqu'un que vous connaissez sans doute mal. Bruno Bonnel est le secrétaire général pour l'investissement en charge de France 2030. Bonsoir Bruno Bonnel.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Expliquez-nous votre rôle. Qu'est-ce que c'est que le secrétaire général pour l'investissement?
C'est la France 2030, c'est un plan qui a été décidé par le président de la République il y a maintenant un peu plus de 2 ans, de 54 milliards, donc une somme considérable, qui n'est pas une dépense publique, parce qu'on entend beaucoup parler de ça en ce moment, et qui est un investissement pour l'avenir. Et nous soutenons les innovations dans toute la France, dans différents domaines, qui vont de la fourniture d'énergie, comme par exemple avec l'hydrogène, ou les nouveaux réacteurs nucléaires, comme la décarbonation de l'industrie et de l'agriculture, également tout ce qui est le développement de l'agriculture dite durable, comme la mobilité électrique, avec un objectif de fabriquer 2 millions de véhicules d'ici 2030. Vous voyez, un certain nombre de leviers comme ça, d'objectifs qui sont financés par le gouvernement, évidemment en association avec les capitaux privés.
Oui, c'est ça. Donc c'est quand même, on a une seule poche de pantalon où il y a de l'argent. Donc vous dites que ce n'est pas de la dépense publique, mais c'est quand même de la dépense ou de l'investissement. Si c'est de l'investissement, c'est de l'argent quand même. Alors les caisses sont vides, comment est-ce qu'on fait pour investir?
Alors ce plan a été décidé il y a 2 ans.
Ah oui, donc... Mais alors, on a décidé de ne pas le stopper.
On a décidé de ne pas le stopper, et heureusement. Heureusement qu'on ne le stoppe pas, parce qu'aujourd'hui, soit on reste la tête dans le guidon, on ne bouge pas et on ne fait que boucher les trous, soit au contraire, on se donne une dimension nouvelle en disant ça, non pas ça va aller mieux comme un mantra, mais ça va aller mieux parce qu'on voit bien que c'est l'innovation qui permet de répondre à beaucoup de
Donc,
défis aujourd'hui.
Donc, on croit quand même à une croissance, on croit à un déficit moindre. Là, on s'est quand même fait faire caler sévèrement par le FMI en disant attendez, vous n'êtes pas du tout sur les mêmes chiffres que nous sur le déficit. Enfin, à un moment donné, il faut quand même avoir les reins solides pour dire on va continuer à investir. Et on va faire ce grand plan France 2030. Enfin, j'imagine qu'on ne va pas ressusciter les aciéries qu'on voit dans les films de Claude Sautet. Donc, on investit dans la tech, on investit dans des... Vous parliez d'hydrogène et dans des nouvelles technologies. Mais la nouvelle technologie, là encore, on va vous dire, bah, regardez ce qui se passe en Chine, on est très très loin derrière.
Écoutez, il y a deux solutions. Hein. Soit on est définitivement résigné et on considère que la France, ça va devenir quelque chose entre Disneyland et la gastronomie, sachant que j'aime les deux, c'est pourquoi pas.
Là-dessus, on est plutôt très fort.
On est très fort.
On pourrait se concentrer que ça.
Par contre, non, justement, on ne peut pas.
Pourquoi?
On ne peut pas parce qu'on sait très bien que... Ben parce qu'on a besoin de souveraineté. C'est un mot qui est un petit peu passé de mode, mais qui est important, qui est répété depuis...
La souveraineté ne passe pas que par la gastronomie.
Non, mais la souveraineté, elle passe surtout par le fait qu'on va pouvoir produire en France, je le disais, des véhicules électriques, on va pouvoir être plus autonome dans notre énergie.
Pas tout de suite quand même.
Non, mais vous savez, quand s'il y avait des gens qui ne s'étaient pas lancés il y a plusieurs dizaines d'années dans « tiens, on va faire un TGV, tiens, on va faire un Concorde », ils n'auraient jamais existé. Donc, il y a un moment donné, il faut prendre la décision d'avancer. Et je pense que c'est un petit peu ça. Vous savez, j'ai l'impression que dans dans un pays, et c'est pas du tout ce que j'entends sur le terrain des gens que je soutiens, où on a honte. On a honte de, ben on a honte d'oser l'innovation. On se dit, ben non, on peut pas, parce que, comprenez, il y a plein de situations compliquées. Moi, je suis, la République est bien rangée, moi, je m'occupe de 2030.
Mais qu'est-ce qu'ils vous disent, les entrepreneurs? Il y a certains qui vous disent, on y va, on devient, comment dirais-je, une start-up, puis ensuite une licorne. Et après, bah, une partie d'entre eux aussi vont à l'étranger parce que ça se fait racheter par un fonds d'investissement américain. D'autres, en l'occurrence, croient et continuent, mais ils ne sont pas très nombreux.
Eh bien, écoutez, en tout cas, nous, aujourd'hui, on a engagé 31 milliards sur les 54 en deux ans, 3 700 projets sur tout notre territoire français. Dans tous les territoires, 48%, c'est des PME et des acteurs dits émergents. Et cette dynamique, elle est réelle sur le terrain. Et on ne rencontre pas simplement des start-up qui veulent devenir des licornes. On a aussi des structures plus traditionnelles, des ETI par exemple, qui disent notre métier est en train d'évoluer. On veut le décarboner par exemple, c'est important. On a bien pris conscience qu'il y a un sens à donner à la planète. Et puis on aide aussi d'autres choses. On aide comme les formations. Les formations aux métiers d'avenir, comme par exemple les formations, vous venez de le dire, à l'hydrogène, à la batterie, au nouveau nucléaire. C'est-à-dire des jobs, des emplois. Parce que n'oublions pas qu'il y a quand même, au bout de tout ça, il y a des femmes et des hommes qui doivent remplir ces.
Mais ces ETI, quand ils vous disent c'est compliqué, c'est aussi parce que sur l'administratif, c'est extrêmement compliqué. Alors, on entend toujours le choc de simplification. Alors, moi, je veux bien qu'on entende le choc de simplification, mais pour l'instant, sur le papier, il n'y est pas.
Écoutez, moi, j'ai été, j'ai été 35 ans chef d'entreprise. J'étais de l'autre côté de la barrière. Ce que je peux vous dire, depuis que je suis en charge de France 2030, on a divisé par deux. Le temps de réponse entre le moment où on pose un dossier et le moment où on reçoit le premier chèque. Sachant qu'on est excessivement sélectif. Hein. C'est un dossier sur trois seulement qui passe parce qu'on cherche l'excellence. Mais bon, à un moment donné, c'est l'argent des Français. On doit quand même faire attention à comment on le distribue. Donc oui, ça prend un certain temps. Moi, bon, j'ai pas honte de dire que 6 à 8 mois me paraît un délai raisonnable entre le moment où on pose un dossier et le moment où on reçoit un chèque.
Deux dossiers dans l'actualité, Bruno Bonnel. La vente, on ne sait pas, mais peut-être de Biogarant, qui était un grand, grand laboratoire de médicaments génériques. Et puis, la descente aux enfers, il y a encore eu un papier ce matin dans le JDD, d'Atos. Est-ce que ce sont deux symboles qui, aujourd'hui, vont encore plus inquiéter les Français dans l'investissement de la France ?
Écoutez, vous le soulignez, c'est important. Biogarant, 100% de ses ventes, c'est là en France. Donc on doit se poser la question, effectivement, de la responsabilité d'avoir les unités de production qui sont de la sous-traitance. En ce qui concerne Biogarant, ils sont tous en France. Je crois qu'il y a une quarantaine d'usines de tête. Eh bien, il faut qu'il reste en France. Donc, quel que soit l'acheteur de Biogarant, il doit prendre des engagements sur le fait qu'on doit regarder de la souveraineté médicamenteuse.
Mais est-ce que le secrétariat général pour l'investissement n'a pas un rôle à jouer en disant on va, de notre côté, trouver des fonds pour que d'abord ça reste en France et ensuite pour que Biogarant garde une situation pérenne et ne casse pas, je sais pas moi, 50% de sa masse salariale?
Non, parce que nous, on n'est pas un gros fromage dans lequel on vient chercher toutes les solutions, toute la République. Nous, on est clairement, on a des objectifs sur l'innovation, à soutenir de l'innovation française. À côté de ça, par contre...
C'en est, hein, Biogarant, c'est de l'innovation.
Non, peut-être, mais en fait, si nous déposer chez nous un dossier d'innovation sur un nouveau médicament, on le regarderait, comme on le fait d'ailleurs pour des dizaines d'autres entreprises.
Mais vous ne pouvez pas sauver toute la boîte,
c'est pas notre rôle de sauver, de courir après tout, après toutes les opérations. Par contre, je pense que notre vigilance, elle est collective au niveau de tous les gens de l'État qui s'intéressent justement à la souveraineté industrielle française, et je ne doute pas une seconde qu'il y a dans les ministères concernés beaucoup d'attention possible au dossier gouvernement. Atos, c'est pas pareil.
Alors Atos.
Atos, c'est pas pareil.
Est-ce que Atos, c'est fichu?
Non, c'est absolument pas fichu. Atos, c'est compliqué.
Même Airbus n'en veut plus.
Non, mais Atos, c'est compliqué. Parce que vous avez deux activités diverses dans un grand groupe qui s'appelle Atos. Il y a notamment une richesse importante chez Atos, c'est tout le travail qu'ils font sur les supercalculateurs. Ouais. Il y a très peu de sociétés au monde qui ont l'expertise de faire des supercalculateurs. Et à l'heure de l'intelligence artificielle, c'est critique.
Tout ça, c'est la branche évidente.
C'est toute la branche Eviden. Et ça, par contre, il faut regarder beaucoup plus près comment on peut arriver à faire quelque chose. Sur le reste, il y a des mécanismes compétitifs. On ne peut pas dire d'un côté, ah ben non, mais on est une économie libérale et on doit la laisser se développer. Et de l'autre côté, dire l'État doit intervenir à tous les niveaux. Il y a une activité qui va trouver, et j'espère pour eux, des solutions dans le bon sens. C'est pas la peine de crier au loup en disant c'est foutu. Il y a différents acheteurs. Il y a toujours
donc
ça.
Donc vous, Bruno Bonnel, vous coupez le fromage. Je prends votre exemple du fromage. Le fromage d'Atos en deux, vous gardez Eviden et vous faites vendre le reste.
Non, je dis que nous, moi je dis nous, notre responsabilité aujourd'hui, notamment sur l'intelligence artificielle, c'est s'assurer que nous aurons les moyens de conserver des grands calculateurs sur le sol européen. Ça, c'est important. On ne peut pas dépendre de grands calculateurs, qu'ils soient américains ou asiatiques. Mmh. Donc, dans ce cadre-là, il faut regarder un peu précisément ce qui se passe au niveau des dividendes, parce que c'est quelque chose sur
qu'on
lequel...
peut sauver.
En tout cas, qui a un vrai avantage compétitif. Mmh. Il faut
creuser.
Et qui
apporte de la souveraineté.
Et qui apporte de la souveraineté, mmh. donc il y a une vraie logique. Sur le reste, vous savez, la vie des entreprises, elle est aussi de faire avec les marchés qu'ils rencontrent et comment ils se développent.
C'est dommage, parce qu'on a dit ça de Bulle, on a dit ça d'énormes, de très très belles entreprises françaises qui malheureusement ont coulé aussi.
Mais vous avez raison, c'est pour ça qu'il faut rentrer dans le détail, et que quelquefois il ne faut pas juste chercher à avoir un slogan ou une marque en disant il faut sauver X ou Y, il faut regarder les valeurs qu'il y a dans les détails des entreprises, et ça fait partie du job où on mélange de l'innovation, on mélange du récurrent, et puis des fois on se dit il faut vraiment changer de braquet, il faut aider à changer de braquet.
Il faut ne pas être dépendant des Américains, j'ai entendu ça il y a deux secondes dans votre bouche, Bruno Bonnel. Il y a malheureusement un fait duquel on est dépendant des Américains, c'est les agences de notation. Là, ça va arriver la semaine prochaine. Est-ce que vous êtes inquiet ?
En tout cas, c'est pas mon rôle d'être inquiet. Je suis inquiet en tant que citoyen.
Vous n'avez pas le droit d'être inquiet.
Non, c'est pas une question de pas avoir le droit.
Bah, si vous êtes secrétaire général pour l'investissement, s'il commence à être inquiet, vous allez recevoir un petit SMS d'Emmanuel Macron en disant tu arrêtes d'être inquiet.
Non, mais moi, de base, déjà, je ne suis pas un homme inquiet parce que je suis sûr que j'ai trop vécu dans mes entreprises des années noires pour pas me dire qu'il y a des moments où il y a des trous d'air. Clairement, la France est dans un trou d'air. 2023-2024. Il y a toutes les raisons qui ont été expliquées dans tous les journaux. Je vais pas y revenir ici. Je suis par contre pas du tout inquiet pour 2025-2026. C'est-à-dire que
on se fait prendre une tôle par Standard & Poor's, on se la prendra puis on remontera après, c'est
exactement
ce que vous dites.
Ouais. Et la vie est faite comme ça, de moments. Vous savez, les Américains, ils disent « what goes up goes down » et vice-versa. Je pense qu'à un moment donné... il faut être réaliste et lucide. Il y a des choses à faire dans l'État. C'est pas chez moi, donc j'ai pas à le commenter. Par contre... être obsédé à investir lourdement pour le futur avec les innovateurs que nous avons,
c'est
ça,
votre
c'est
job.
C'est mon job et c'est ce qu'il faut faire.
Également, au niveau européen, j'en parle parce que les élections européennes approchent et qu'elles sont, un carcan important également pour l'investissement. Vous travaillez avec les Européens
On travaille avec les Européens parce qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de règles qui sont définies par l'Europe, et c'est tant mieux, parce que sans l'Europe, on n'a pas la PAC, notamment. Alors, je sais pas, elle est décriée par beaucoup de gens, mais elle est aussi très protectrice. Sans l'Europe, on n'a pas de vaccin pendant le Covid. Il faut quand même s'en rappeler. Enfin, moi, je suis un pro-européen convaincu. En tout cas, m'appelez pas le jour des élections, comme je dis, j'ai Europe. Hein. Donc, ça veut dire que j'irai faire mon devoir de citoyen, et j'invite vraiment tous les Français à le faire. Pas parce que je suis politique, parce que je pense qu'il est essentiel qu'on comprenne que les enjeux sont continentaux. Mmh. Donc aujourd'hui, nous travaillons avec nos homologues allemands, nos homologues italiens, nos homologues espagnols, à dire s'il y a des choses à faire ensemble, c'est maintenant. Dans le quantique, par exemple, il y a des choses à faire ensemble. Dans l'espace, il y a des choses à faire ensemble. Dans l'exploration des fonds sous-marins, il y a des choses à faire ensemble. Et on ne peut pas le faire face à des monstres comme la Chine et les États-Unis en étant un pays isolé, quel qu'il soit, et quel que soit son orgueil.
Merci beaucoup pour cette dose d'optimisme, Bruno Bonnel, ce soir sur Europe 1, 18h27, un peu de musique, voici France Gall.
Si tu l'as, elle a, elle a.
Ella, 1989, c'était France Gall sur Europe 1.
Europe 1 soir week-end, 18h-19h. Pierre de Villeneuve.
Et à 6h30, tout ce qu'il faut retenir de l'actualité. Guillaume Lariche, bonsoir.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. À Paris, une marche antiraciste a quitté Barbès en début d'après-midi pour rejoindre la place de la République. 3000 personnes réunies d'après la police. Une cinquantaine d'organisations représentées comme LFI ou le nouveau parti anticapitaliste. Des slogans pro-palestiniens ont également été entendus. Afin d'éloigner les jeunes de la délinquance, faut-il généraliser un couvre-feu pour les mineurs à partir de 23h à l'ensemble des villes de France? C'est oui pour 67% des Français interrogés dans notre sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD. Pour la rentrée des classes de demain d'une partie des élèves, les syndicats d'enseignants de Seine-Saint-Denis et de Haute-Garonne appellent à la grève. Ils réclament la création de 8000 postes d'enseignants et de vie scolaire. Et parmi les autres revendications, pas plus de 20 élèves par classe et la réfection des établissements vieillissants. Un accident de manège mortel la nuit dernière dans une fête foraine à Blois, éjectée d'une attraction peu après 23h. Une jeune femme de 27 ans n'a pas survécu à ses blessures. Une enquête judiciaire a été ouverte. Le propriétaire de l'attraction placé en garde à vue. Pour dire non à une nouvelle portion de route de l'A69 face à des problèmes liés à l'écologie, entre 1500 et 5000 personnes, suivant les sources, ont manifesté ce dimanche à Toulouse. Une ambiance contre ce projet devant réduire d'une vingtaine de minutes le trajet Castres-Toulouse contre 1h20 actuellement. Et puis du foot avec en clôture de la 30e journée de Ligue 1, PSG Lyon ce soir à 21h. En ce moment, Brest, Monaco et Le Rocher mènent 2-0 actuellement. Cet après-midi, victoire de Montpellier, Metz et Lille. Enfin, la course des 24 heures du Mans Moto remportée cet après-midi par Suzuki devant BMW et Yamaha. Le circuit de la Sarthe accueillera les 24 heures du Mans Auto le week-end du 15 juin. La suite d'Europe 1 soir week-end avec Pierre de Villeneuve.
Merci Guillaume Lariche. D'autres informations avec vous à 19h. Et nous, on se retrouve pour le club politique d'Europe 1 soir dans une poignée de secondes. Restez avec nous sur Europe 1. A tout de suite.
Bonjour, c'est Pascal Praud sur Europe 1.
Oui, bonjour Pascal.
Ce qui compte, c'est vous.
Je pense que vous êtes la voix de personnes qui n'osent rien dire et qui sont majoritaires quand même dans ce pays.
Il faut se réveiller un petit peu à un moment donné.
Je sors pas le soir non accompagné.
Est-ce que c'est normal?
Pascal Praud et vous.
Merci d'être comme vous êtes tous, au cœur des choses.
Alors je vous attends de 9h à 9h30 et de 11h à 13h. À demain sur Europe 1.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Yeah, yeah, wow. Merci ma maman chérie, merci maman, merci. C'est comme ça que je te remercie, je t'aime ma maman, merci.
Menu King Junior, 4 euros, un jour vos enfants vous remercieront. Et en ce moment, 3 gourdes à collectionner chez Burger King. Menu King Junior avec jouets à 4 euros, prix conseillé. Remise d'une gourde pour l'achat d'une formule Glou Glou, stock limité. Plus d'infos sur burgerking.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Burger King.
Renault.
L'autre jour, un chef d'atelier Renault me demande « Monsieur José, vous pourriez nous aider à recruter pour le service après-vente ?» Et le voilà qui me parle de ses métiers de plus en plus technologiques, avec des formations régulières, bref, le gars passionné. Moi, je dis, il ferait mieux de parler à ma place.
Les ateliers Renault Car Service recrutent des mécaniciens, électromécaniciens et carrossiers, débutants ou confirmés. Postulez sur recrutement-réseau.renault.fr. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Source l'Automobile Magazine 2023. Europe 1 Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Le club politique d'Europe 1 Soir avec ce soir Benjamin Morel, bonsoir.
Bonsoir.
Constitutionnaliste, maître de conférence en droit public, bonsoir à Dorian Dreuil.
Bonsoir.
Expert à la Fondation Jean Jaurès et coprésident de l'ONG à voter. Les 100 jours, les amis, les 100 jours de Gabriel Attal avec un discours sécuritaire à Viry-Châtillon, avec pas mal d'annonces, et notamment sur les internats, le retour aux internats pour les enfants violents, avec des annotations sur les diplômes. Des jeunes marqués au fer rouge jusqu'à la fin de leur jour avec un diplôme d'un BEP, mais avec enfants violents dessus. Enfin, qu'est-ce que vous avez pensé de ce discours et comment vous voyez Gabriel Attal à l'aube de ces 100 jours, mon cher Benjamin Morel?
Je dirais que pour l'instant, on n'a pas un Premier ministre qui a beaucoup imprimé. Alors, on a d'ailleurs des enquêtes qui ne sont pas trop défavorables. En règle générale, en moyenne, la popularité d'un Premier ministre sous la 5e République, c'est 2 mois. Là, on voit que ça baisse un petit peu, mais ça ne bosse pas de manière extrêmement importante. En revanche, le plan communication Gabriel Attal est quand même quelque chose qui s'est relativement essoufflé. Si vous regardez ce qui s'est passé au ministère de l'Éducation nationale, quand il était ministre, le plan Abaya, le fait que tout d'un coup, un truc qui serait que par une circulaire, on en parle pendant un mois, il n'a pas réussi à faire ça à Matignon. Il a plutôt subi l'actualité à travers la question de l'agriculture, à travers la question du déficit public, des séquences en fait, dont il n'a pas été à l'origine et qu'il n'a pas investi, de même que celle des européennes sur lesquelles il est pour l'instant très très discret. Or, pourquoi Emmanuel Macron nomme Gabriel Attal ? Essentiellement pour faire de la com, pour arriver à relancer le train avant les européennes. Pour l'instant, le contrat n'est pas vraiment rempli, donc il parie sur ce qui fait son existence dans l'opinion, éducation, autorité, il appuie dessus. Est-ce que ça prendra à voir ? Emmanuel Macron lui a grillé la politesse la veille.
Dorian Dreuil.
Oui, je suis assez d'accord avec Benjamin, mais j'y ajouterais peut-être qu'on fait de la communication quand on ne peut pas légiférer et quand on ne peut pas réformer. Et c'est tout la difficulté de Gabriel Attal, c'est que la situation, sa nomination, n'a rien changé à la situation politique à l'Assemblée nationale et à cette configuration de majorité relative. Donc le double défi pour le Premier ministre, c'est la question du temps. La question du temps, et le deuxième, c'est le temps, encore.
Le temps, d'abord, il
est coincé dans l'échéance électorale des élections européennes, qui ne s'annonce pas très favorable pour la majorité qu'il conduit, et le temps ensuite de la mise en œuvre des réponses aux crises qu'il fait, c'est-à-dire le moment entre je subis une crise dans la société, j'annonce des mesures, et le moment où elles sont appliquées, parfois ça prend du temps. Et ce délai, on le voit dans l'opinion, il se rétracte de plus en plus. Il y a le sentiment qui se propage que entre le moment de l'annonce et sa traduction politique et effective dans la société, ce délai est trop long.
Est-ce que ces 100 jours, comme vous le dites Dorian Dreuil, avec l'absence de texte au Parlement, se traduit aussi par le fait que quand on a une majorité relative, du coup on marche sur des œufs. Et quand on marche sur des œufs, Benjamin Morel, qu'est-ce qu'on fait ? On légifère comme on peut au niveau de l'exécutif sans passer justement par l'ordre législatif.
Ou voire même on légifère pas du tout. Encore une fois, il faut se souvenir de la charnière décembre-janvier. Emmanuel Macron, après la loi immigration, considère que de toute façon la majorité c'est quelque chose auquel il ne faut pas toucher et qui est quasiment mort. Donc on nomme Gabriel Attal en sachant très bien qu'au vu de la composition du gouvernement, ça va fâcher la gauche de la majorité. Et qui plus est, en ramenant Rachida Dati, que ça ne va pas forcément soigner les relations avec LR. Donc on fait le deuil quasiment d'une majorité structurée et bien tenue au Parlement. Au nom d'un côté, une capacité à agir par voie réglementaire, par décret, par circulaire. Bref, on essaye d'agir, mais on essaye d'agir sans passer par justement le Parlement. Et de l'autre côté, au nom de la communication, parce que si je refais un coup à l'abaya, encore une fois, j'ai une circulaire. Théoriquement, le débat dure un jour. Mais là, vous avez le teasing du débat. Vous avez le ministre qui finalement décide. Vous avez ensuite la décision et vous avez le service après-vente, ça dure un mois. Ce coup de communication fait à Matignon, aurait été génial. Il n'a pas vraiment été fait depuis. Donc le paradoxe pour l'instant, c'est qu'on a un Gabriel Attal qui n'a pas si mal géré cette majorité très divisée. Aujourd'hui, elle ne va pas très bien, mais elle va mieux qu'il y a quelques mois. En revanche, du point de vue de la communication, c'est quand même passé en grande partie sous les radars. Et donc là-dessus, il est un peu en contre-emploi par rapport à ce qu'avait envisagé Emmanuel Macron en janvier.
Et est-ce que c'est ça aussi, Dorian Dreuil, qui contribue au fait que Jordan Bardella est, selon les jours, 29, 30, 32% dans les intentions de vote aux élections européennes ?
Non, je pense pas, parce qu'il aurait été vain d'imaginer que la nomination de Gabriel Attal suffise à contrecarrer cette espèce de vague, de tsunami de l'extrême droite et de la droite radicale en France et dans d'autres pays d'Europe. Pour la simple et bonne raison que Gabriel Attal, en tant que Premier ministre, il est tenu de ne pas pouvoir faire campagne. Donc mécaniquement, le match Attal-Bardella, il ne peut pas s'installer puisqu'il y en a un qui ne peut pas le jouer. Et puis, les ressorts de cette montée de l'extrême droite, il se trouve ailleurs, et notamment dans la capacité du Rassemblement national et de ce qu'il y a encore plus à droite à sa droite, et notamment la liste Reconquête, à jouer sur les colères, les peurs, sur tout ce qui suscite d'angoisse dans la société, dans tout ce qui polarise, d'appuyer sur cette polarisation de la société à outrance pour espérer en récolter les gains dans les urnes.
Vous pensez qu'ils en font trop ? Vous pensez que le RN attise relate des faits qui sont des faits de violence ? D'ailleurs, est-ce qu'on a vraiment besoin du Rassemblement National pour dire que des jeunes de 15 ans se font poignarder, ils sont laissés pour morts dans des ruelles ?
Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par le RN qui attise la haine ?
Je ne dis pas qu'ils attisent la haine, je dis qu'ils jouent sur, sur les colères et les peurs qu'il y a dans la société. En participant de cette polarisation, en jouant le miroir grossissant de ce qui est relaté dans la société, et aussi en nationalisant à outrance ce scrutin. Et c'est d'ailleurs une stratégie assumée par le Rassemblement National qui fait de ces élections européennes un référendum pour ou contre Macron. Le Parlement européen et ce qui va se passer dans les 5 années au Parlement européen n'a que faire d'être pour ou contre Emmanuel Macron. Donc il y a cet enjeu.
Il y a un bilan. C'est-à-dire qu'on joue sur le bilan aussi de.
Il joue en tout cas sur le bilan du président de la République. il joue le bilan du président de la République qui n'est pas eurodéputé. Donc il y a un enjeu quand on est député sortant comme on est comme Jordan Bardella. D'abord c'est de parler de son propre bilan. Et il parle de lui-même, et ensuite de faire campagne sur un projet politique, pas contre le président de la République. Mais c'est quelque chose qu'on revoit dans d'autres situations de l'échiquier politique. Ouais. Quand Jean-Luc Mélenchon, il fait de cette élection le premier tour de l'élection présidentielle de 2027, c'est un peu se moquer des électeurs dans la mesure où on ne parle pas en tout cas du projet politique européen.
C'est compréhensible, même si Benjamin Morel, cette élection européenne, on la présente depuis plusieurs mois maintenant comme des mid-terms, comme des élections de mi-mandat pour 2027.
Oui, et comme souvent toutes les élections intermédiaires, c'est toute la difficulté. Si je commence à parler des vrais enjeux de cette élection européenne, est-ce que vraiment la coalition entre les sociaux-démocrates, le New et le PPE pourrait bouger de façon relativement limitée ? Est-ce qu'on pourrait avoir éventuellement une reconfiguration des coalitions ? Tout ça évidemment à mettre au diapason de ce qui se passe au Conseil pour arriver à avoir une double majorité et au Conseil et au Parlement européen. Vous comprenez bien que j'ai perdu déjà la moitié de vos auditeurs et que ça va être compliqué pour une liste.
Et ils auront encore moins mobiliser. D'aller voter
c'est
aux élections européennes.
Voilà. Qu'on le veuille ou non, la logique de la Ve République, et malheureusement c'est le cas, font des élections intermédiaires des élections sanctions. Regardez, avant qu'on ait eu la dichotomie entre champ politique local et champ politique national, les régionales. Lorsque la France est dominée par un président de droite, par exemple sous Nicolas Sarkozy, la quasi-totalité des régions passe à gauche. Lorsque François Hollande est président, la quasi-totalité des régions passent à droite. Donc, si vous voulez arriver à mobiliser votre électorat, il faut jouer sur des enjeux très simples. Et l'enjeu le plus simple, c'est sanctionnons le président de la République. Et par ailleurs, dès lors, vous créez un effet vote utile, ce qu'aujourd'hui crée Jordan Bardella. Du point de vue des élections européennes, le vote utile, ça n'a pas de sens, parce qu'on est face à des élections transnationales à la proportionnelle. Mais regardez ce qui s'est passé en 2019, par exemple, pour François-Xavier Bellamy. Une partie des électeurs de droite qui ne veulent pas d'Emmanuel Macron vont voter, entre guillemets, utile pour le sanctionner, Jordan Bardella. Et une partie des électeurs qui ne veulent pas Jordan Bardella, qui ne veulent pas du Rassemblement National, vont voter utile l'oiseau. Donc cet effet de dispatchage, de dynamique via le vote utile, est lié à la nationalisation des scrutins. Et ça, si vous voulez l'emporter, vous ne pouvez pas trop y échapper.
Vous parliez de Bardella et de Valérie Ayé, pas de Nathalie
Loiseau. Non, je disais que ça s'était passé en 2019. Oui. Et là, en effet, on voit à peu près la même chose se passer.
Et Bardella était déjà là. Dorian Dreuil, sur ce qui vient d'être dit.
Oui, à relativiser peut-être sur 2019, parce qu'il y a quand même un effet pour la majorité à l'époque qui joue le coude à coude avec le Rassemblement National. Mmh. Il termine, je crois, à 0,5 points. Là, il y a quand même une avance qui sera difficilement rattrapable pour le Rassemblement National. Oui. Enfin, à 30-32 et le camp présidentiel à 16-18.
À moins que les sondages se plantent complètement, ce qui est rarement le cas. Enfin,
dans ce différentiel-là, c'est du doublé.
La dernière fois qu'on avait vraiment un plantage, c'était Pécresse, où vraiment personne ne la voyait à 4-6, alors qu'on était plutôt à 8-9.
Oui, mais alors, pour les présidentielles, les sondages sont assez fiables. En revanche, le problème, c'est les élections intermédiaires, parce qu'on a du mal, souvenez-vous, des dernières régionales, à considérer la participation. Et là, il y a un vrai enjeu, en réalité. On sait qu'il y a un électorat centriste qui se mobilise quoi qu'il arrive. Donc là, on a des listes relativement stables. On sait que l'électorat RN, pour l'instant, au moins depuis l'ère Philippot, est surmobilisé aux élections intermédiaires. Donc, on peut penser que ça fonctionne bien. Mais il y a tout un électorat flottant dont on ne sait pas encore à ce stade-là s'il va se mobiliser. Ce qui fait que, dans la dernière ligne droite, on peut avoir des dynamiques de campagne extrêmement rapides parce que des nouveaux électeurs qui, pour l'instant, n'ont absolument aucune idée qu'il y a une campagne européenne en cours ou, en tout cas, ne la visualisent pas très bien, mais pourraient se réveiller au dernier moment.
Il y a une chose dont on n'a pas parlé, Dorian Dreuil, ce sont, je l'ai effleuré tout à l'heure en lancement, c'est en introduction, ce sont les annonces de Gabriel Attal, en l'occurrence, sur comment faire taire la violence des jeunes. Avec notamment cette proposition des internats, des maisons de redressement. On en a parlé hier soir, ici même, dans les débats de Panorama avec Jean-Yves Le Borgne et le préfet Aubouin. Il y a à ce stade très peu de jeunes placés. Si on fait le calcul des places, parce que Gabriel Attal, il a fait son petit calcul, il a regardé les internats au sens large, hein, il y a 55 000 places vacantes en France pour des jeunes qui potentiellement se retrouveraient dans des établissements qui ne sont pas du tout faits pour ça, mais on essaye quand même de les remettre d'une manière générale dans le droit chemin. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ?
En tout cas, ça montre que sur certains sujets, il est compliqué de faire du en même temps. Mmh. Il est compliqué d'annoncer à la fois du répressif et en même temps du préventif. Mmh. Et c'est sûrement pas de nature à, en tout cas, intéresser ou mobiliser dans les élections qui arrivent, à la fois l'électorat plutôt social-démocrate de centre-gauche de la Macronie, et à la fois les jeunes. Et on parlait tout à l'heure de l'électorat ou de la volatilité des électorats et de l'enjeu de la participation. Aujourd'hui, la moyenne de la participation pour les élections européennes, elle est annoncée à 44-47%, ce qui est très faible et plus faible que 2019. Parce que ce qu'on n'arrive pas encore à déterminer, c'est quelle sera la mobilisation des 18-34 ans. En 2019, c'est eux qui avaient eu un regain d'intérêt de participation. Ils étaient à peu près à 40% de participation contre 25% en 2014. Là, ce qu'on n'arrive pas à voir très bien dans les sondages, c'est est-ce qu'ils vont se surmobiliser ou se remobiliser ou pas, parce que la détermination, ce qu'on appelle la cristallisation du vote, hein, le est-ce que je vais voter ou pas, il va arriver dans les derniers jours avant l'élection. Donc, c'est aussi une campagne qui va se jouer dans les dernières semaines, voire les derniers jours, voire le jour même dans les urnes.
Benjamin Morel, sur cette idée des maisons de redressement.
On est dans du signifiant politique. Là, il s'agit simplement de rappeler ce qui fait encore une fois la base de l'éthos du Premier ministre pour arriver à le faire exister. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est le caractère très bizarre de cet agenda. Il y a les 100 jours de Gabriel Attal et il y a les quasiment 100 jours avant les élections européennes. On voit que le Premier ministre n'est pas rentré dans ces élections et qu'on a une forme de calendrier concurrent. On a une forme de dichotomie des séquences politiques, l'une se recroisant pas tout à fait, pour répondre un peu à ce que vous évoquiez tout à l'heure. Est-ce que ça va mobiliser l'électorat de la majorité ? Pas sûr. Pas sûr non plus que ce soit tout à fait l'intérêt ni même l'objet de Gabriel Attal. On voit qu'on a un Premier ministre qui mène son propre plan de communication et de manière extrêmement divergente.
Je remarque que ni l'un ni l'autre, vous me répondez sur, en quittant un peu la politique, l'agenda de Gabriel Attal, l'agenda des européennes, personne ne me dit si c'est une bonne ou une mauvaise idée de remettre les jeunes dans le droit chemin à travers des internats. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Vous êtes plus constitutionnaliste.
Non, je suis constitutionnaliste quand même. Donc le citoyen peut vous répondre, mais sa compétence en la matière est forcément bordée par ses compétences.
Peut-être, mais ça m'intéresse quand même.
La réalité, c'est que sur ce sujet, on peut avoir un intérêt, en effet, à isoler de certains milieux sociaux, qui peuvent être les milieux sociaux originaires, un certain nombre de jeunes qui peuvent être en difficulté et qui peuvent être pris dans ces logiques-là. Donc, les mettre dans des internats qui soient des internats ailleurs, les mettre dans des internats, dans des établissements qui ne soient pas le leur à l'origine, dans le milieu social dans lequel ils évoluent, ça pourrait être extrêmement intéressant. Est-ce que ce sera bien fait ? Est-ce qu'on en a les moyens ? Là, à voir.
Ouais. Et Dorian Drey, même punition, même question. Est-ce que ces centres, c'est une solution ou est-ce que c'est faisable ?
Je n'étant pas expert, j'aurais une difficulté à imaginer que ce soit d'avoir un avis sur le sujet, mais pour répondre quand même, en tout cas pour pas complètement esquiver votre question,
non, je suis opiniâtre,
ça doit aussi s'accompagner, si ça fonctionne, ça doit aussi s'accompagner d'un dispositif de prévention. La prévention, elle est clé. Quand on parle de cette montée de violence dans cette violence physique, ou en tout cas cette violence dans la vie réelle, elle colle aussi avec l'autre bulle qui est la violence en ligne et sur les réseaux sociaux, qui est un espace où la société a malheureusement accepté qu'on puisse se comporter différemment dans la vie en ligne que dans la vie réelle. Et on retrouve cette espèce de fait des bulles algorithmiques qui nous enferment dans ces espaces qui sont devenus des espaces de confrontation et de violence, ou qui accélèrent aussi la polarisation, qui fait qu'on le dialogue devient impossible et donc l'affrontement est inévitable. Il y a aussi cet enjeu-là, en fait, de mieux comprendre, de se réapproprier l'espace numérique comme aussi un espace de civisme. Donc il y a aussi cet enjeu préventif.
Alors, je me tourne à nouveau vers le constitutionnaliste. Là, vous allez vous faire un peu de
j'allais dire, de droit international public, oula, qui doivent être également dans votre, dans vos compétences. Mayotte.
Oui.
Qu'est-ce qu'on fait avec Mayotte?
Alors, c'est du droit constitutionnel, pas du droit international public. Mais oui, alors, sur
un
la
peu
question
quand même,
de Mayotte.
On est à la lisière.
On est à la lisière, mais.
Il y a des histoires d'ingérence, il y a des. Bon, voilà.
Alors, la question de l'ingérence, en revanche, pose un problème qui est un problème qui n'est pas tant de droit international que de géopolitique. Mmh. Il faut voir que derrière les Comores, vous avez un certain nombre de capitales. Regardez mes yeux se tourner vers Moscou, Pékin et Riyad, qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, le bras de fer qu'on peut avoir avec les Comores n'est pas aussi à notre avantage qu'on pourrait bien le penser. Mmh. Ce qui pose un vrai, vrai problème. Ensuite, est-ce qu'on peut avoir des évolutions législatives ou constitutionnelles? Si vous prenez par exemple la question du droit du sol, c'est un problème qui est un problème là, d'indivisibilité de la République, parce que le droit du sol, en tant que tel, on ne l'a pas consacré comme principe constitutionnel. Le Conseil ne l'a jamais consacré jusqu'à présent. Donc on pourrait imaginer une remise en cause sur l'ensemble du territoire, juridiquement, à voir, mais ce n'est pas tout à fait impossible. En revanche, ce que l'on ne peut pas faire, ce que l'on n'a jamais fait, c'est rompre sur le territoire un droit fondamental. Mmh. Considérer que ici il s'applique, ici il ne s'applique pas. Le problème, c'est que si je fais rentrer en la matière l'exception, bah Mayotte, en effet, dans une situation exceptionnelle. Mais la Guyane aussi. Et le Var, lors de la crise des réfugiés en 2015, également. Donc, où est-ce que je fais arrêter le droit commun? Où est-ce que je considère qu'il y a exception? Si je fais sauter le droit du sol à Mayotte, à terme, je mets sous terre le droit du sol, quoi qu'il arrive.
Dorian Dreuil, sur Mayotte, et sur l'opération Wambushu aussi.
Il y a un enjeu, mais je parle sous le contrôle du constitutionnaliste, à quand même, je pense, le plus possible, éviter ces exceptions au droit du sol, dans la mesure où ça pourrait aussi faire entrer dans la fenêtre d'Overton, la fameuse, dont on parle beaucoup, l'acceptabilité que la République ne pourrait pas être une et indivisible, ou qu'il pourrait, par effet de communauté, eh bien, y avoir des exceptions juridiques de plus en plus fortes. Et là, il y a un enjeu. Un enjeu de cohésion sociale et nationale, républicaine et démocratique, à ne pas ouvrir cette boîte de Pandore-là, qui aujourd'hui s'appliquerait à Mayotte et demain à d'autres territoires.
Oui. Sur cette question de Mayotte, sur la violence qui est ces derniers jours, effectivement, sur beaucoup d'écrans de télévision, sur beaucoup de chaînes de télévision, on en parle, nous, à Europe 1. Est-ce que il n'y a pas un trop-plein qui fait que le discours politique, qu'il soit à gauche, à droite et au milieu, au centre, est finalement le même. Et il y a beaucoup de yaka faucon, il y a beaucoup de solutions qui sont présentées, et à la fin, l'électeur qui, en attendant, comme on se l'est dit, voit les élections européennes plus comme des mid-term plutôt que d'une élection, comme vous l'avez dit, Benjamin, où tel parti français va rejoindre tel parti néerlandais qui va rejoindre tel parti allemand, finalement, il aimerait bien savoir où aller et ce qu'on peut lui préconiser.
Ah oui, Mayotte est un objet de cristallisation politico-médiatique relativement simple en réalité, parce qu'on a une situation qui est une situation qui est évidemment un naufrage. Mmh. On a une situation qui est en grande partie liée à nos propres erreurs et à celles notamment de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy. On a départementalisé trop tôt et on ne s'est pas donné les moyens, à la fois d'un point de vue géopolitique et juridique, d'accompagner un processus qui sera un processus Saint-Mayotte. Après, on n'a pas non plus tout à fait joué le jeu du développement d'un territoire. Vous savez, le problème fondamental aujourd'hui dans les Outre-mer de manière générale, c'est qu'on prône l'égalité, on prêche l'égalité, mais on ne la met pas en application. Or derrière, il y a des enjeux géopolitiques. On parlait tout à l'heure des Comores, etc. Vous avez d'autres. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, la Polynésie, par exemple, fait l'objet de convoitises assez importantes, de même que la Nouvelle-Calédonie. Donc, aujourd'hui, on n'est pas...
Bien sûr, il y a des minerais, il y a des fonds sous-marins extrêmement
exactement.
Importants.
Et vous avez des puissances étrangères qui s'intéressent à ces territoires. Donc, il faut être extrêmement prudent. Et évidemment, notre débat franco-français national se concentre là-dessus, sur un certain nombre de stigmates, sans trop penser les causes. En la matière... dès le moment où j'ai une solution qui apparaît insoluble, et où cette solution, pour être résolue, impliquerait des interactions complexes, il est facile d'arriver avec une solution simple. On parlait tout à l'heure du droit du sol à Mayotte. Très clairement, la révision constitutionnelle n'arrivera probablement pas. Elle ne réglera d'ailleurs probablement pas grand-chose. Si vous faites le bilan de la loi de 2018, qui a déjà restreint ce droit du sol, il n'est pas brillant en la matière. Donc, ce n'est pas vraiment la solution miracle, mais c'est facile. Ça permet de cristalliser politiquement les médias et l'opinion. Et donc, on est dans de la communication politique. Le problème, c'est que les premières victimes de cette communication politique, c'est les Mahorais.
Il y a un dernier sujet que je voudrais aborder. Dorian Dreuil, on a célébré les 80 ans du vote des femmes. C'est important.
Oui, très important et d'autant plus intéressant au-delà de la commémoration. C'est toujours l'occasion, je trouve, de rappeler que le droit de vote des femmes, s'il est le général de Gaulle signe l'ordonnance en 44, ça fait suite à 150 ans de mobilisation des mouvements féministes, des suffragettes, comme on les appelait. Et c'est vrai qu'en France, on a tendance, notre mémoire collective a tendance à oublier qu'il y a eu des suffragettes françaises, a tendance à oublier toutes ces histoires, ces anecdotes d'engagement de Marie Pélissier, d'Hubertine Auclert, de Louise Weiss, de toutes ces actions qui ont permis de faire avancer la société, avec des actions parfois originales et d'une modernité folle, hein, des candidates à l'élection présidentielle qui faisaient campagne sans avoir le droit d'être candidate, de faux bureaux de vote en parallèle d'élections législatives réservées aux femmes. Et donc c'est toujours important de rappeler, voilà, qu'il y a des visages et des noms et des histoires, et ce mouvement civique qui a duré 150 ans jusqu'à rendre acceptable en 44, ce qu'il était peut-être pas dans le débat politique à l'époque, après plusieurs propositions, projets de loi qui sont pas allés au bout de la procédure législative, avec donc voilà, il y a c'est aussi un hommage aux suffragettes françaises qu'il faut faire aujourd'hui.
Benjamin Morel, en 30 secondes.
En 30 secondes, on a en effet une révolution qui est une vraie révolution électorale. Et d'ailleurs, à l'époque, elle est très conjoncturelle. Il s'agit également pour le général de Gaulle d'éviter l'arrivée au pouvoir du Parti communiste. Donc, on a un jeu qui est un jeu à l'époque de conjoncture, mais ce jeu de conjoncture, aujourd'hui, fait qu'on a un vrai suffrage universel, parce que je rappelle que le suffrage universel masculin, ce n'est pas le suffrage universel.
Merci à vous, merci Benjamin Morel, merci Dorian Andreuil. Merci. Je vous signale que demain à 8h10, vous retrouvez Sonia Mabrouk pour la grande interview Europe 1 et CNews. Son invité, Thibaut de Montbrial, avocat et président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Merci à tous, merci encore de votre fidélité. Je voulais à tous les auditeurs, vous annoncer que je quittais désormais la présentation des journaux à 18h, vendredi, samedi, dimanche, et que j'aurai le plaisir de vous retrouver dès le lundi 29 avril, aux commandes d'Europe 1 Soir, nouvelle formule. Et pour ce faire, exactement, je voulais remercier Donna Vidal-Revel, notre directeur général, et Constance Binquet, et également mes équipes Thomas Lacroix, Capucine Patouillet et Benoît Levieux-Noix. D'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée sur Europe 1 avec Nicolas Caro et La Voix est libre.
Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing Électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si Accordiac, voir fr.renew.auto. Pensez à covoiturer.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron ?
Alors, ça envoie du steak ?
Et même du steak de porc, patron. Dès demain, les 5 steaks de porc sont à 3,49€ les 400 grammes au lieu de 4,49€, moins 22%.
70 centimes le steak de porc.
Et origine France, hein ?
Oh, les cochons !
Ah oui, on est mal.
Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 8,73€ le kilo, origine France. Offre valable jusqu'au mercredi 24 avril. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Quand vous avez un brique glace, ça vous paraît compliqué à gérer ? Avec Carglass, c'est simple. Allez direct sur carglass.fr. En quelques clics, vous lavez votre rendez-vous. Comme on est agréé par la plupart des assureurs, on vous accompagne dans les démarches avec votre assurance. Et comme la majorité de nos clients, il n'y a pas de franchise à payer. Oui, oui, zéro franchise. En plus, jusqu'au 10 mai, pour toute intervention par brise, Carglass vous offre des balais d'essuie-glace Bosch. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui sur carglass.fr.
Carglass répare, Carglass remplace.
Conditions sur carglass.fr.
Il est 19h sur Europe 1, le journal Guillaume Larriche. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Dans la marche contre le racisme et l'islamophobie aujourd'hui à Paris, au moins 3000 personnes ont défilé dans l'après-midi entre Barbès et République. Défilé à l'appel d'une cinquantaine d'organisations, d'extrême gauche notamment, qui se termine par un concert qui vient de débuter. Guillaume Dominguez, vous êtes sur place et tout le monde attend les prestations des rappeurs Medine et Kery James.
Et oui, ici un peu plus d'une centaine de personnes sont rassemblées devant une petite scène sur la place de la République. Tous attendent ici le début du concert du rappeur, vous l'avez dit, Kery James, et du rappeur